Alors, je ne sais pas qui veut lancer les débats dans cette table ronde. On avait dit plutôt e-Link. Donc l'association e-Link, qui est un de ces tiers acteurs, comme les appelle Alain Bourdin, de ces nouveaux professionnels ou nouveaux militants, à eux de nous dire. Et la question qu'on voulait vous poser à partir de votre projet sur l'îlot e-Link à Nantes, sur l'île de Nantes, c'est l'émergence de ces collectifs participe-t-elle au brouillage ou à l'évolution du système d'acteurs institutionnels et des étapes traditionnelles du processus d'aménagement. Votre association, e-Link, se positionne-t-elle en maître d'ouvrage, en assistant à maîtrise d'ouvrage, en perturbateur, en électron libre, etc. Donc c'est un peu votre positionnement, vous, en tant qu'association, qu'on voulait vous interroger. Donc à la fois l'association elle-même, Antoine Houël en est le responsable, et puis le groupe d'études et de recherche sociale qui a mené le travail d'analyse de l'opération e-Link.
Bonjour. Dur de commencer. Pour faire assez court, même si j'ai oublié la moitié de la question, est-ce qu'il y a un travail de brouillage qui a été fait? Ça, je pense que ce sera plus le GERS qui sera capable de l'expliquer, parce que c'est eux qui ont interviewé la totalité des acteurs du programme e-Link. Moi, ce dont je peux vous parler, c'est surtout de... On reviendra sur ces petits schémas après... Mais c'est de comment se passe un programme immobilier classique. Oubliez le e-Link en haut, mettez programme immobilier classique. On est vraiment sur quelque chose de pyramidal, avec un aménageur qui nomme des urbanistes, qui découpe le quartier en lots. Donc tout ça, c'est dans une ZAC, une zone d'activité concertée. Qui a donc des maîtrises d'ouvrage arrivent, des promoteurs, qui arrivent avec des maîtrises d'œuvre, leurs architectes, qui arrivent avec des bureaux d'études. Et tout en bas, on a les usagers. Nous, ce qu'on a cherché à faire au travers de l'action de notre association, donc e-Link Association, c'est de nous mettre là. D'être dans une forme de médiation socio-technique, où au départ on pensait surtout techniciser les besoins d'usage des futurs habitants et vulgariser les propos des experts. On s'est rendu compte que très vite on s'est retrouvé à faire de la médiation entre des niveaux d'experts aussi, qui en fait n'ont pas forcément un échange, on va dire, simple. Et donc voilà un petit peu comment nous on s'est positionné. Il n'y avait pas forcément cette recherche de brouiller les pistes. Après, comme c'est une démarche qui est fondamentalement expérimentale, puisque sur des programmes immobiliers, on a soit de l'autopromotion où les gens construisent vraiment pour eux-mêmes. Là, l'idée, c'est de... On s'est associé dès le départ. C'est peut-être comme ça qu'il faut que je vous le raconte. On a bénéficié en fait d'un alignement de planètes qui était super favorable. C'est une île en plein cœur de la ville de Nantes, qui est un territoire en renouvellement urbain. Au cœur de cette île, un quartier de la création. Au cœur de ce quartier de la création, un écoquartier. Au cœur de cet écoquartier, un îlot démonstrateur qui s'appelle e-Link. Donc déjà, il y avait tout qui focalisait dessus. Cet écoquartier, ce bâtiment e-Link, l'aménageur, donc, qui s'appelle la Samoa, lance une consultation. À cette consultation répondent des groupements de promoteurs. Et en parallèle de ces groupements de promoteurs se constitue un groupe d'acteurs économiques, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, qui se constitue en association et qui dit « on va venir participer au processus de conception. On va devenir la maîtrise d'usage de ce programme. » Et c'est là-dessus qu'on est retenu au départ. Et lorsqu'on est retenu pour ça, donc d'abord tout le monde sable le champagne parce que c'est quand même 22 000 m². Enfin, 22 000 m², c'est absolument colossal. 500 habitants, 500 salariés à peu près. Et assez vite, s'est posé la question de « bon, bah, comment on va faire ?» Et donc c'est là que ça brouille un peu les pistes, c'est qu'effectivement, on part d'une démarche où il n'y a pas de modèle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti une méthode qui était plutôt inspirée du design, où on commence par imaginer, on ne se met pas de limite. Ensuite, on rentre dans une phase de conception. On expérimente, essentiel justement pour la question de la participation. Parce que ça donne des objets préhensibles pour à terme dupliquer ou répliquer ces expérimentations dans le programme immobilier. Si on met ça en parallèle d'un planning d'un projet immobilier, c'est tout ce qui est en bleu, c'est la phase des études, du concours aux études. En jaune, on passe dans la phase chantier, puis en rouge, la vie une fois sur place. Donc je vais aller très très vite parce qu'on est quand même deux à parler. Je passe sur la question du financement qui sera posée tout à l'heure. Non, mais deux à parler sur ce sujet-là. Nous, ça nous a amené à expérimenter du coworking. Donc sur un modèle, on a monté 3 espaces qui, alors que les bâtiments ne sont pas encore livrés, le programme est livré en 2018, on a 3 espaces qui représentent exactement le même volume que les espaces de coworking qui seront intégrés à Elink. Et la particularité de ce qu'on développe, ça tourne surtout autour d'une conciergerie, qu'on appelle pour l'instant notre labo de quartier, et qui dans le cadre de ce programme immobilier, c'est comment est-ce qu'on transforme une bulle de vente, la double rotonde, qui est accolée à une friche, comment est-ce qu'on transforme ça en un condensé de ce qu'on veut mettre dans ce nouveau quartier. Donc ce condensé, c'est, bon, là on peut le voir, il y a à la fois un terrain de pétanque devant, qui n'est pas du tout aux normes de la Fédé, hein, mais qui fonctionne quand même, des jardins partagés sur la gauche, un espace patio derrière, mais qui ressemble plutôt à ça. Dans la loge, ça nous permet d'accueillir des boutiques éphémères, des ateliers, des conférences. Dans le patio, ça nous permet d'organiser des apéros conviviaux. La partie extérieure, où il y a un poulailler également, bah, nous permet d'avoir... là, on est vraiment sur des espaces publics. Hein, c'est un petit peu comme à la cartonnerie. C'est qu'on est sur des espaces privés, mais accessibles depuis le public. J'appelle ça des espaces à responsabilité limitée, qui permettent de faire beaucoup de choses sans avoir les contraintes de l'espace public en tant que tel. Et en parallèle de ça, on propose des services qui sont des distributions de paniers, des achats groupés, on va installer un relais poste et on a des cantines qui viennent s'installer tous les midis dans cette loge. Donc une fois qu'on a regardé un petit peu ça, la question de comment ça brouille les pistes, c'est surtout que ce sont des cultures qui se rencontrent qui ne sont pas du tout habituées à parler ensemble. On a une culture de la promotion qui a vraiment processé l'acte de construire et nous on est arrivé avec une envie de déconstruire ça, ou en tout cas l'envie de le modifier, et c'est en ça que ça a un petit peu chamboulé les choses. Mais là je vais laisser la parole au Cher, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter là-dessus.
Avant de revenir directement sur les effets du brouillage, moi ça me semblait intéressant de revenir aussi sur le côté émergent et nouveau de ces acteurs. Ça a été dit un peu en introduction et puis dans le documentaire, c'est vrai que des groupes qui se mobilisent pour penser l'urbanisme un peu différemment de ce qu'est la norme à l'époque où ils sont en activité, ça existe déjà depuis les années 60-70, donc en ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau par contre, c'est sans doute l'écho que ça a, et notamment l'écho que ça trouve auprès de la puissance publique, auprès des aménageurs, etc. Alors au-delà de l'alignement des planètes particulièrement favorable à Nantes, sur l'île de Nantes, sur la programmation E-Link, nous, il nous semble qu'il y a différentes choses qui peuvent aussi finalement faire que faciliter cet écho auprès de la puissance publique, faciliter l'écho auprès des aménageurs et faciliter l'écho aussi auprès de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ces espaces partagés, que ce soit dans la rénovation urbaine ou dans la programmation même immobilière. On arrive quand même à une époque où d'abord, notamment à l'époque d'E-Link, mais sur d'autres opérations aussi, où il y avait une difficulté à vendre pour les promoteurs et les constructeurs. Des difficultés à vendre, et notamment sur les bas d'immeubles, sur les rez-de-chaussée, mais pas seulement. Donc ça peut faire aussi qu'ils cherchent de nouvelles façons, des produits qui se démarquent un petit peu, et finalement de nouvelles façons de construire pour aussi trouver des nouveaux segments de marché. Du point de vue de l'architecture aussi, on peut se dire on est sur une génération de jeunes architectes qui ont été davantage, sans doute, que leurs prédécesseurs formés à la question des usages, formés à la question de la sociologie, et qui arrivent sur un marché du travail tendu, où là aussi, il y a peut-être intérêt aussi à trouver un nouveau segment d'emploi pour leur avenir. Et puis, du côté de la puissance publique, on est à une époque où il y a une baisse des budgets des collectivités, qui vont aussi favoriser la curiosité des collectivités et de la puissance publique sur les nouvelles formes de production de l'espace public ou des espaces intermédiaires entre l'espace privé et l'espace public, qui puissent penser une nouvelle forme de lien social, faciliter le lien social et peut-être même à terme éviter que du déploiement de services d'hyper-proximité qu'ils n'ont plus les moyens de toute façon de mettre en place. Donc finalement, il y a tout un ensemble d'acteurs qui trouvent des intérêts, chacun les leurs, mais qui vont se corroborer et faciliter, donner un écho finalement à ces démarches hors champ de la production urbaine, ces démarches qui croisent aussi de la dimension participative la plupart du temps. Pour revenir sur la question d'E-Link, on est sur des opérateurs qui apparaissent un peu ce qu'on a pu voir aussi hier dans ce qui nous était présenté, puis dans ce qu'on va voir aujourd'hui, sur des collectifs un peu hybrides, c'est-à-dire qu'au départ, on est sur un collectif qui sont des entrepreneurs, qui ne sont pas des entrepreneurs de l'urbanisme ni de l'architecture, qui arrivent avec une idée de, à la fois de trouver un espace pour eux, donc de s'aménager un espace confortable, convivial, etc., et puis en même temps d'en faire profiter le quartier, et peut-être aussi de faire ce qui n'est pas exclusif, hein, un bon coup immobilier. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas d'exclusivité, de caractère exclusif de ces deux notions-là. Et finalement, de personnes qui arrivent bénévoles, qui vont investir sur leur temps, militants, etc., on va se retrouver très vite à professionnaliser, c'est-à-dire que l'association E-Link, elle va être aussi le passage d'un investissement militant pour soi à un investissement qui peut être militant, qui peut être porté par de la croyance, mais qui est adossé à un contrat de travail et qui est adossé, et du coup, et qui pose un peu différemment la question aussi de comment on vit quand on a un contrat de travail. Et voilà, je laisse.
Pour nous, de ce qu'on a pu voir dans le cas E-Link et par rapport aux autres dossiers qu'on est amené à traiter dans le cadre du GERS, c'est que pour nous, c'est là que se joue le brouillage des cartes et que peut éventuellement intervenir une redéfinition des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on a un nouvel intérêt qui émerge, c'est des intérêts différents mais qui sont croisés. Je ne sais pas comment on peut faire. Plus près, d'accord. Mais voilà, ça bouscule les habitudes de penser, les manières de faire, les habitudes de collaborer qui existaient entre les acteurs en place. Là, ça vient bousculer un peu tout ça. Finalement, ça oblige à redéfinir les spécificités, les spécialités, les prérogatives, mais aussi les responsabilités de chacun. C'est-à-dire que finalement, ces nouveaux acteurs qui arrivent avec des compétences spécifiques viennent aussi bousculer les acteurs précédents qui concevaient leur manière de travailler comme incluant cette prise en compte des usages. C'est-à-dire que ça vient dire aussi quelque part aux architectes qu'ils ne le font peut-être pas autant qu'ils le voudraient parce qu'ils ont d'autres contraintes. Ça vient dire aux aménageurs qui n'ont pas non plus cette culture-là. Donc bref, ça crée un nouveau métier, une nouvelle expertise. Et finalement, ça rejoue les rapports de force et les hiérarchies symboliques entre les différents acteurs. Parce qu'il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est qu'à un moment donné, il faut piloter ces opérations. Et savoir qui pilote, c'est dire aussi qui sait piloter les opérations. Et pourquoi faire, qui décide de l'ambition de ces opérations et finalement qui paie, puisque c'est là qu'on retrouve un enjeu. Donc nous, ce qu'on constate dans les travaux qu'on a menés et qu'on a pu consulter, c'est que peu importe que ces nouveaux acteurs, ces nouveaux collectifs soient des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des AMO ou des bénévoles, tous ils ont la compétence, l'ambition, ils font le travail d'acquérir les compétences qui permettent de prendre en compte les usages et les usagers. Par contre, suivant quel type d'acteur va porter cette initiative, on n'a pas du tout la même mise en œuvre et donc on n'aboutit pas au même résultat. C'est-à-dire que les cultures professionnelles initiales, le cadre de contraintes qui s'imposent localement, mais aussi de façon réglementaire ou économiquement, va jouer différemment sur leur conception de l'usage et des usagers. Et donc, ils ne vont pas se donner la même mission, pas se donner les mêmes ambitions. C'est la question de qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, jusqu'où on peut aller et surtout comment on va y parvenir. Et ça, aucun de ces acteurs n'y répond de façon strictement équivalente. Pour nous, ce jeu-là, ça ramène à la façon dont se constituent et les collectifs et les usagers qui participent, puisque finalement, quand on avait des militants bénévoles de l'autopromotion, ce travail-là, il était fait pour eux, sur leur temps libre, et donc il y avait une sorte de gratuité, un peu, même si c'était du temps. Quand c'est intégré dans la démarche des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, c'est quelque chose de spécifique, une différenciation, une qualité supplémentaire. Mais là aussi, c'est pareil, le prix de leurs interventions, le prix de cette attention aux usages, il est intégré au coût de l'opération. Pour nous, ce que viennent dire ces nouveaux collectifs, ces nouveaux professionnels, c'est que puisqu'il y a une nouvelle attention, une attention plus spécifique qu'à des ambitions différentes, c'est que ces acteurs nouvellement professionnalisés sont en recherche de financement. Ils ont besoin de vivre en tant que salariés, en tant que professionnels, et surtout, ils ont besoin de moyens pour mettre en œuvre les différentes opérations, dans le temps ou ponctuellement. Et là, c'est là pour nous que se pose cette question de où est l'intérêt général et l'intérêt privé, puisque dans le cas de l'opération E-Link, on a pu constater que et les maîtres d'ouvrage et les pouvoirs publics ont abondé financement, en financement dans l'opération et en volonté de faire pour porter ce projet, aider ce projet à continuer, à perdurer dans la longueur de temps. Et donc là, c'est la question de l'articulation entre ce qui est fait pour tous, pour les habitants uniquement de l'îlot et pour l'intérêt public en général. Et c'est l'enjeu, c'est un des enjeux qui est structurant de notre point de vue. Voilà.
Merci. Je retiens cette idée de grande diversité des collectifs avec comme point commun quand même une attention aux usages, mais qui se traduit de manière extrêmement différenciée. Je trouve l'explication en termes de sociologie du travail aussi intéressante. C'est pas un hasard si c'est beaucoup de jeunes architectes qui se constituent en collectif. Ça révèle aussi une forme de crise de la profession. Peut-être plutôt que de découper les questions, on a jusqu'à midi et quart, midi et demi pour cette table ronde. Je vous propose de faire les trois interventions à la suite, ce qui nous laissera un temps très très large d'échange avec la salle.